Il y a une phrase, une sorte d'axiome qu'on entend constamment.
Ouais, c'est un peu le bruit de fond inévitable, quoi.
C'est ça. Dès qu'on aborde l'économie mondiale, on nous sort toujours la même idée. En gros, l'Afrique est endettée parce qu'elle est pauvre.
Bah, c'est le récit qui s'est complètement installé dans l'inconscient collectif, hein.
Exactement. On a tout de suite cette image d'États qui sont en perpétuelle difficulté, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
Et qui, du coup, par la force des choses, doivent tendre la main et emprunter pour survivre. C'est le postulat de base des analyses traditionnelles.
Ouais, on observe la pauvreté, on voit la dette, et hop, on fait une relation de cause à effet super linéaire.
La pauvreté engendre la dette. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.
Mais voilà, et si toute cette équation était posée complètement à l'envers?
Ah, là, on rentre dans le vif du sujet.
Et si le continent africain était financièrement exsangue, précisément à cause d'un héritage d'endettement colonial qui serait en fait illégitime?
C'est une vraie révolution de perspective, ça.
C'est carrément la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se plonger dans un dossier fascinant issu de CNE+.
Des publications qui datent du 31 mai 2026, c'est bien ça?
Tout à fait. Et l'attention, elle se porte surtout sur une analyse absolument renversante de la chercheuse Marie-Emta Moussanang.
Une thèse qui propose de retourner complètement la perspective historique et économique.
Bon, décortiquons tout ça.
Ouais. Et c'est une démarche d'une importance capitale. Mais il faut préciser tout de suite l'esprit de notre décryptage.
C'est-à-dire?
Pas tribunal historique. Voilà, exactement. L'objectif, c'est absolument pas de s'ériger en juge ou distribuer des bons et de mauvais points politiques.
On reste sur les faits.
Absolument. Notre rôle, c'est d'analyser froidement des mécanismes. Des trucs financiers, juridiques, institutionnels qui sont rigoureusement documentés.
Des mécanismes qui ont bâti l'architecture économique mondiale d'aujourd'hui, en fait.
C'est ça. Et qui continue de dicter les règles du jeu. En gros, on fait un exercice de traçabilité comptable, quoi.
Et pour tracer cette dette jusqu'à son origine, bah, il faut remonter super loin, bien avant les indépendances.
À la source même du financement colonial.
Du coup, faisons un saut dans le temps. On atterrit en 1884-1885.
La fameuse conférence de Berlin.
Exactement. Le moment où les puissances européennes se partagent littéralement la carte de l'Afrique.
Le coup d'envoi de la course à l'occupation territoriale.
Sauf que occuper des territoires à cette échelle, ça coûte un pognon monstre, non?
Ah bah c'est inédit. Il faut envoyer des armées, entretenir des expéditions.
Créer des administrations à partir de rien.
Et surtout, bâtir des infrastructures lourdes. Parce qu'il faut bien extraire et exporter les matières premières.
On parle de ports en eau profonde, de lignes de chemin de fer, de routes interminables.
Et pour financer ces chantiers titanesques, les puissances impériales vont faire quoi? Elles vont emprunter massivement sur les marchés?
D'accord, mais attends. Et il est intéressant de noter que plus tard, ces logiques de financement, elles impliqueront directement la Banque mondiale. Créé en 1944.
Tout à fait. Les institutions de Bretton Woods vont reprendre le flambeau de cette logique.
Mais là, je t'arrête, parce que ça heurte une idée reçue super tenace.
Ah, le mythe du contribuable agit.
Ben ouais. L'image d'Épinal, c'est de se dire que le citoyen moyen en Europe, il a saigné aux quatre veines pour payer ce grand projet avec ses impôts.
C'est ce qu'on entend tout le temps, oui.
Mais pour utiliser une analogie moderne, c'est comme si on croyait qu'un PDG pète sa poche pour construire une usine géante.
Alors qu'en vrai,
il a secrètement contracté le prêt au nom de ses propres ouvriers.
C'est exactement ça.
Il fait porter l'intégralité du risque financier sur eux. L'usine appartient au PDG, les profits aussi, mais la dette, elle est pour ceux qui transpirent sur la chaîne de montage.
L'analogie est particulièrement juste. Et ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le droit formel de l'époque a institutionnalisé ça.
C'est-à-dire, c'était dans la loi Cogné.
Bah oui, l'analyse de la chercheuse s'appuie sur des faits indéniables, en citant les travaux de l'économiste Denis Kono.
Sur l'Empire bon marché, c'est ça?
Exactement, l'Empire bon marché. Si on prend la France, le texte clé, c'est la loi de finances du 13 avril 1900.
1900, d'accord. Et elle dit quoi, cette loi?
Elle instaure un principe fondamental, l'autonomie financière des colonies.
Attends, autonomie financière? Non, ça sonne pas ce que positif comme ça.
En apparence seulement. En termes clairs, ça veut dire que le budget de l'État métropolitain a l'interdiction formelle de financer l'administration coloniale.
Waouh! Donc les territoires conquis doivent payer pour leur propre conquête.
Obligation légale de s'autofinancer en prélevant les ressources directement sur place, oui.
C'est une logique qui donne le vertige, surtout quand on regarde les chiffres dans les fourses.
Ah, les chiffres sont sans appel.
Sur plus d'un siècle, l'État français n'a consacré qu'environ 0,5% de son revenu national à son empire colonial.
0,5%. C'est une goutte d'eau statistique, quoi.
Et même cette infime fraction, ça servait surtout à payer des opérations militaires. La pacification, comme il disait.
Tout le reste, les routes, les salaires luxueux des gouverneurs, la construction des quartiers réservés aux colons...
Tout ça a été intégralement payé par les populations colonisées.
C'est le cœur même du système. La métropole orchestre tout, s'approprie les bénéfices, mais externalise 100% du coût sur les locaux.
Ce qui soulève une question hyper mécanique, du coup.
Comment on extrait tout cet argent ?
Bah oui ! Comment on extrait une rentabilité financière massive d'une population qui vit d'agriculture de subsistance et qui n'utilise même pas la monnaie européenne ?
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ou d'une brutalité inouïe, ouais.
Puisque Paris ou Londres ne payent pas, faut faire cracher le terrain. Les sources identifient deux leviers principaux.
Le premier, c'est le grand retour de la fameuse taxe de capitation.
L'impôt par tête.
C'est littéralement ça. On paye juste parce qu'on existe. C'est comme si on t'imposait un abonnement hors de prix juste pour avoir le droit de respirer chez toi.
Et sans aucun service client en retour, hein ?
Zéro service. Et l'ironie suprême, c'est que la France avait aboli cet impôt chez elle en 1789.
Pendant la Révolution, oui, parce que c'était jugé profondément injuste.
Mais bizarrement, elle s'est empressée de le ressusciter outre-mer quelques décennies plus tard.
Et les proportions de cette pression fiscale, c'est effarant. L'analyse donne l'exemple de l'Algérie en 1909.
Ah oui, les chiffres sont fous.
En 1909, 90% de la population indigène assumait 70% de l'ensemble des impôts directs perçus sur le territoire.
70% des impôts payés par les indigènes.
Mais en face, cette même population était systématiquement exclue des écoles, des hôpitaux, des services publics financés par cet argent.
Une extraction à sens unique, quoi. Zéro redistribution.
Absolument aucune.
Bon, attends, je dois me faire l'avocat du diable une seconde.
Je t'écoute.
Parce qu'il y a un argument qui revient en boucle dans le débat public. On nous dit souvent, ouais, mais il y a quand même eu des routes, des hôpitaux, des voies ferrées de construites.
De ce fameux bilan positif des infrastructures.
Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas un bénéfice économique réel sur le long terme ? Comment l'analyse justifiait le terme d'extraction totale si des trucs ont été bâtis ?
C'est une excellente question. Et c'est là qu'il faut regarder la géographie, l'architecture même de ces chantiers.
C'est-à-dire ?
Elles allaient où, ces routes ?
Eh bien, elles n'ont pas été pensées pour relier les villes africaines entre elles, ni pour stimuler le marché intérieur.
Elles servaient pas aux locaux, en fait.
Non. Ce sont des infrastructures purement extractives, dessinées en ligne droite, depuis les mines ou les plantations...
Directement vers les ports maritimes.
Exactement. Pour exporter vers l'Europe. Ce n'est pas une infrastructure de développement, c'est un tapis roulant vers l'extérieur. D'accord, la mécanique est très claire. Mais pour ceux qui n'avaient tout simplement pas l'argent liquide, comment ils payaient cette taxe de capitation ?
C'est le deuxième levier dont parlent les sources, la prestation.
La prestation, un joli euphémisme administratif, ça.
Pour désigner le travail forcé, oui. Ceux qui n'avaient pas de numéraire devaient payer en sueur.
Donc, des communautés entières réquisitionnées pour construire ces fameux tapis roulants vers les ports.
C'est ça. Et même si ça a été formellement aboli par la loi en 1946, les sources rappellent que la pratique a continué officieusement bien après.
Mais au-delà de la souffrance immédiate, quel a été l'impact à long terme de cette pression sur ces sociétés ?
L'impact, il est fondamental. C'est pas juste une perte d'argent ponctuelle, c'est une reprogrammation totale de l'économie.
Une reprogrammation ? Comment ça ?
Pour garantir la sécurité alimentaire.
Les gens cultivaient pour manger, logiquement.
Mais pour obtenir la monnaie nécessaire à l'impôt, ils ont dû abandonner ça.
Ah !
Pour faire des cultures d'exportation.
Exactement.
Des cultures de rente, de l'arachide, du coton, du cacao.
Destinées exclusivement à l'extérieur.
Et voilà comment la souveraineté alimentaire a été détruite au profit du marché international.
Ce qui nous amène inexorablement au point de bascule de toute cette histoire. L'année 1960.
L'heure des indépendances.
L'heure des indépendances pour une grande partie du continent. Et là, en toute logique, quand le colonisateur s'en va, il prend ses dettes avec lui, non ?
C'est ce que la rationalité voudrait.
Ses dettes contractées pour asseoir son pouvoir devraient repartir dans ses valises. Or, c'est l'inverse absolu qui se produit.
C'est le fameux moment du transfert de la dette. En 1960, l'intégralité des dettes coloniales a été transférée sur les registres des jeunes États indépendants.
On exige de ces nouvelles nations qu'elles remboursent des prêts souscrits pour exploiter leurs propres ressources.
C'est complètement fou, oui.
Les sources illustrent ça avec le Congo belge. Et les données font vraiment froid dans le dos.
Ah, le Congo de 1960.
Au 30 juin 1960, le pays a environ 14 millions d'habitants.
Et sur ces 14 millions, tu sais combien de diplômés du supérieur il y avait ?
Le chiffre est ridicule. 16.
16 diplômés. Pas un seul médecin congolais, pas un ingénieur, pas un juriste.
L'héritage d'un demi-siècle de gestion.
Et sur les épaules de cet État vidé de tout cadre, on dépose un fardeau financier colossal.
C'est précisément là que la recherche de Marie Yemtamou Sanang convoque le droit international.
Parce que c'est pas qu'une question morale, c'est aussi juridique.
Tout à fait. L'analyse s'appuie sur la théorie de la dette odieuse.
La dette odieuse, conceptualisée par Alexander Sack en 1927. C'est ça ?
C'est ça. La doctrine est sans ambiguïté. Si une dette est contractée par un pouvoir despotique
pour asservir ou coloniser une population,
eh bien cette dette est juridiquement nulle et non avenue pour la population en question au moment de sa libération.
Les nouveaux citoyens n'héritent pas des dettes de leurs oppresseurs.
Exactement.
Mais c'est là que je perds le fil, parce que c'est pas juste une théorie abstraite en l'air. Le texte rappelle un précédent historique incontestable.
Oui, en Europe.
Après la Première Guerre mondiale, quand la Pologne est devenue indépendante, il a été acté que le nouvel État polonais n'allait pas payer les dettes de l'Empire allemand.
Des dettes contractées pour coloniser la Pologne, justement.
La règle a été strictement appliquée pour les Européens. Alors comment la Banque mondiale a pu valider ce transfert en Afrique en 1960 ans ?
En violation totale d'un principe juridique qui venait de servir, oui. Cela soulève une question cruciale.
Le fameux deux poids, deux mesures.
C'est un double standard flagrant. Pourquoi ce qui est illégal en Europe devient la norme contractuelle pour l'Afrique ?
C'est le péché originel de l'économie post-coloniale, en fait.
La fondation même de la dette de ces pays est viciée dès le premier jour de leur souveraineté.
L'ardoise n'a jamais été effacée, elle a juste changé de nom sur le fichier Excel.
Et elle a été délibérément transférée.
Et loin de s'effacer avec le temps, cette ardoise originelle, elle a gonflé de manière vertigineuse.
Le piège post-colonial se referme.
Ouais, le système d'endettement a muté. Il a trouvé un terrain très favorable auprès des régimes autoritaires, faut le dire.
Des régimes fermement soutenus par cette même communauté financière internationale.
T'as un exemple emblématique en tête ?
L'ère post-coloniale en est pleine. Le cas du Zaïre sous Mobutu est effrayant.
Ah oui, Mobutu.
À sa mort en 1997, on estimait sa fortune personnelle, placée à l'étranger, à environ 8 milliards de dollars.
8 milliards ! C'est gigantesque, hein ?
Et ce montant représentait à lui seul près des deux tiers de la dette extérieure de son pays.
Et les institutions internationales continuaient de lui prêter de l'argent ?
Pendant des décennies, en sachant pertinemment que ses fonds étaient détournés.
Et tout en exigeant ensuite que la population zaïroise rembourse la facture. C'est le cynisme absolu !
Et puis arrive le véritable cataclysme.
Le début des années 80, l'année 1982, c'est vraiment le déclencheur de la grande crise de la dette.
Une crise d'une violence inouïe.
Mais techniquement, comment on explique qu'une crise frappe si fort et si brutalement ces pays-là en particulier ? Les sources parlent d'une explosion des taux.
Le mécanisme est redoutable. La plupart de ces pays avaient emprunté à des taux d'intérêt variables.
Et en dollars, j'imagine ?
Toujours en dollars. Donc, quand la banque centrale américaine décide d'augmenter drastiquement ses taux pour combattre sa propre inflation...
Le fameux choc Volcker.
Exactement. Le coût du remboursement pour les pays du Sud est multiplié du jour au lendemain.
Sans qu'il n'ait emprunté un centime de plus, hein.
Rien du tout. Le volume des intérêts explose. Et simultanément, le prix des matières premières qu'ils exportent, lui, s'effondre.
C'est l'effet ciseau parfait. Moins de rentrées d'argent et des remboursements décuplés.
Pour éviter la banqueroute générale, le FMI et la Banque mondiale entrent en scène.
Et là, ils imposent les fameux plans d'ajustement structurel.
La potion amère.
En gros, on exige des États qu'ils sabrent dans les dépenses publiques pour payer les créanciers en priorité.
Le résultat est immédiat et brutal.
Les sources donnent le chiffre du Congo. La part du budget national pour l'éducation, elle s'effondre de 26% à 7% en 4 ans.
Entre 82 et 86, oui. Les répercussions de ces ajustements sont dévastatrices.
L'État-providence est démantelé avant même d'avoir vraiment existé.
Gel des embauches de fonctionnaires, suppression des subventions sur les produits de première nécessité.
Les hôpitaux laissés à l'abandon.
L'État se retire de sa fonction de protection. Il n'est plus qu'un simple débiteur.
C'est un point absolument central. Et quand un État est vidé de sa substance comme ça, que se passe-t-il sur le terrain ?
Bah, la société ne disparaît pas.
Non, elle s'adapte. La nature a horreur du vide. Et c'est en comprenant cet effondrement qu'on pige vraiment les autres sujets abordés dans les sources d'aujourd'hui.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est flagrant. La destruction institutionnelle oblige les populations à innover.
Exactement. Prends l'itinéraire d'un politicien comme Abdoulaye Ouad, dont parle un des articles.
L'ancien président du Sénégal ?
Voilà. Il fait partie de cette génération formée à la fameuse école William Ponty.
Des gens avec de grandes ambitions pour l'indépendance.
Mais une fois au pouvoir, il se retrouve à naviguer dans un espace politique totalement verrouillé par le fardeau de la dette.
Les marges de manœuvre sont dictées par le FMI.
Et là où c'est le plus frappant, c'est au niveau de la population elle-même. Quand l'économie formelle s'effondre, c'est l'informel qui prend le relais.
C'est là que l'article sur les chenilles mopanes dans le Limpopo prend tout son sens.
La récolte des insectes en Afrique du Sud. Parfaite illustration.
C'est un exemple fascinant de résilience. Parce que la vente de ces chenilles, c'est pas juste du folklore rural.
Non, c'est devenu une véritable industrie de substitution.
Face à un système défaillant qui garantit plus la sécurité alimentaire, la récolte offre une source cruciale de protéines.
Et surtout, ça génère des revenus informels vitaux pour d'innombrables familles.
C'est une stratégie de survie économique.
Mais ce besoin de pallier l'absence de l'État, ça s'arrête pas à l'assiette ou au porte-monnaie.
Ça touche aussi la psychologie sociale, n'est-ce pas?
C'est clair, ça touche l'espoir. Et ça explique ce papier passionnant sur le rôle des marabouts au Sénégal.
Un rôle d'amortisseur social très puissant.
Ben oui, face à des institutions exsangues, un marché du travail bouché, pas de sécurité sociale. Vers qui se tourne un jeune diplômé sans emploi?
Vers les structures traditionnelles et spirituelles.
L'article montre comment les marabouts, les figures religieuses, remplissent ce vide.
On va les consulter pour débloquer un entretien d'embauche.
Ou pour trouver une guérison quand l'hôpital public n'a plus de médicaments.
Ou simplement pour du réconfort. Ces institutions parallèles, elles remplissent le vide abyssal laissé par l'État.
Un État que la dette a rendu complètement puissant. C'est une réaction en chaîne de dingue.
La dette dicte le budget détruit l'État.
Et l'absence d'État pousse les gens à réinventer leur filet de sécurité. Économique, avec les chenilles, ou spirituel, avec les marabouts.
Mais revenons à l'analyse de Mariem Tamoussanan.
Ouais, parce que l'étude ne fait pas qu'un diagnostic déprimant, hein.
Non, elle propose des pistes d'action très concrètes face à ce piège systémique.
Et l'une des solutions majeures, c'est l'audit citoyen de la dette.
Le principe est d'une logique implacable. Instituer une commission indépendante avec la société civile pour éplucher chaque ligne de crédit.
Faire de la comptabilité militante, en gros.
Déterminer d'où vient l'emprunt, qui l'a signé et si les fonds ont vraiment servi la nation.
Ou s'ils ont été détournés pour payer des villas sur la Côte d'Azur.
Voilà. Et surtout, vérifier si la dette viole le principe de la dette odieuse.
Et attention, c'est pas qu'une belle idée utopique de prof d'université. Ça a été fait en Équateur, avec succès.
C'est un cas d'école très instructif.
Comment ça s'est passé concrètement, là-bas, en 2008?
Sous la présidence de Rafael Correa, l'Équateur a lancé cet audit intégral. Et après des mois d'enquête, documents à l'appui...
Ils ont trouvé quoi?
Ils ont prouvé qu'une part immense de la dette était illégitime ou frauduleuse, héritée de régimes précédents.
Et donc ils ont fait quoi? Ils ont juste arrêté de payer.
Le gouvernement a suspendu le paiement d'environ 70% de la dette commerciale.
70%? Et les créanciers internationaux ont réagi comment?
Eh bien, la mécanique juridique était tellement solide que les créanciers ont dû s'asseoir à la table et accepter une décote massive.
Comme quoi, face à un argumentaire de droit implacable, les rapports de force peuvent basculer?
Exactement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Ça nous amène au grand renversement de perspective de l'analyse.
Ouais, si on suit le droit international, le récit dominant qu'on citait au début, il explose en vol.
Les pays africains ne sont pas des débiteurs en retard chronique.
Ni des bénéficiaires de la charité internationale, si on comptabilise l'extraction fiscale de 1900, le travail forcé, les dommages écologiques...
Et les intérêts illégitimes payés depuis 60 ans.
Ces pays sont en fait les créanciers nets des puissances du Nord.
Ce sont les anciennes métropoles qui ont une dette énorme envers eux. C'est un renversement paradigmatique très puissant.
C'est vertigineux, oui.
Et il faut rappeler que cette exigence, elle n'est pas née hier matin.
Ah non? Les sources parlent de la proclamation d'Abuja.
En 1993, lors de la première conférence panafricaine sur les réparations.
Et ce texte exigeait déjà l'annulation pure et simple des dettes, non?
L'annulation des dettes, la restitution des biens culturels spoliés et la reconnaissance des dommages.
Mais 30 ans plus tard, le bilan reste super maigre, souligne l'analyse.
Très maigre. Les quelques restitutions médiatisées d'œuvres d'art, c'est bien, mais ça pèse rien face à la structure de la dette souveraine.
La dette, elle, est restée intacte.
Intacte et étouffante.
Bon, pour résumer ce voyage intellectuel qu'on vient de faire...
C'est un sacré parcours.
Ouais, on a connecté une obscure loi parisienne de 1900 à la récolte d'insectes dans Limpopo, en passant par l'Équateur.
Tout est lié, finalement.
Et l'information clé, c'est que la dette souveraine, c'est bien plus qu'une question comptable.
C'est un outil de contrôle géopolitique majeur.
Dont les racines plongent direct dans le système colonial et qui a forcé des sociétés entières à inventer leur propre voie de survie.
L'histoire de la dette est indissociable de l'histoire des rapports de pouvoir. C'est le seul moyen de comprendre la symétrie du monde actuel.
C'est le genre d'analyse qui change définitivement la façon dont on écoute les infos échos.
C'est sûr.
Mais avant de clore cette exploration, il reste une dernière pensée. Une petite provocation intellectuelle, tirée de notre discussion sur la Pologne.
Je t'écoute.
Imaginons un instant. Et si la théorie juridique de la dette odieuse de 1927 était appliquée demain de manière globale et rétroactive?
Si on annulait universellement les transferts de 1960?
Voilà. Qu'arriverait-il au système financier mondial si les pays du Sud s'organisaient pour calculer les intérêts composés de plus d'un siècle d'extraction?
Oula, le chiffre serait astronomique.
S'ils auditaient l'histoire et envoyaient froidement la facture à la Banque mondiale et au FMI?
Voilà une perspective fascinante. Tirer le fil de l'histoire juridique s'amène souvent à des conclusions qui ébranlent toutes nos certitudes.
Et c'est là tout le plaisir de la découverte intellectuelle. Prendre un fait qu'on croyait immuable et le regarder sous la lumière du droit.
Tout à fait.
Merci d'avoir partagé toute la profondeur de cette analyse. Il est toujours essentiel de garder l'esprit critique en éveil. À la prochaine pour de nouvelles explorations.